première vie donc anonyme de la première moitié du 8e siècle, une réécriture par Étienne de Liège au 10e, celle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, deux versions de Sigebert de Genlou à la fin du 11e siècle, et enfin une réécriture, la dernière, au milieu du 12e par le chanoine Nicolas de Liège. Or, ces cinq détails illustrent, comme l'a montré jadis Jean-Louis Duper dans un remarquable article, comment les auteurs ont tenté d'adapter donc, le dossier de Lambert aux préoccupations religieuses et politiques de leur temps, et comment ils ont fait passer Saint-Lambert de l'histoire à la légende. Donc Lambert, c'est un aristocrate né à Maastricht, dans le second quart du 7e siècle. Il est devenu évêque de la ville en 668, au plus tôt, et il a été ensuite contraint à l'exil par son adversaire Pharamond et ses partisans, période où il gagne le monastère de Stavelo, où il connaît une période ascétique. Il y reste 7 ans, au terme desquels la faction politique qu'il avait chassée est dissoute et il retrouve son siège épiscopal. Toutes les versions antérieures à celle de Nicolas rapportent les déprédations et les vols commis contre l'église de Maastricht, entre autres par deux personnages, Gallus et Rioldus, deux frères parents d'un certain Dodon, puissant à la cour. Les neveux de l'évêque Pierre et Odolé prennent les armes pour les repousser et les tuent. Dès lors, donc, c'est l'évêque Lambert et sa maisonnée qui subissent la vengeance de Dodon. Et dans la première version n'apparaît pas la légende qui viendra plus tard, et qui concerne les reproches de Lambert à Pépin à cause de sa relation adultère avec Alpaïde. Or, si on résume donc historiquement les faits, comme l'avait fait Jean-Louis Duper, on peut dire que vers le début du 8e siècle, dans ce qui n'est encore qu'un obscur village au bord de la Meuse, donc l'évêque de Tombes est assassiné. Il est assassiné au cours de ce qu'on pourrait appeler une sorte de commando. Et c'est tout au plus un fait divers, ou presque, mais on devine une querelle de lignage dans la pénombre de ces événements, un conflit dont l'évêque de Tongres serait l'enjeu. Donc Lambert est mort victime d'une guerre entre deux clans. Il est enterré à Maastricht. 13 ans plus tard, sa dépouille est ramenée sur les lieux mêmes du martyr, à Liège, où ont lieu des miracles post-mortem. C'est à la suite donc de cette translation que le premier biographe écrit, vraisemblablement entre 727 et 743, et sa vie cherche à asseoir la sainteté et le martyre de Lambert, à justifier le transfert de ses reliques sur le lieu même donc de ses miracles, et à développer à Liège une infrastructure sacrée. La première réécriture dont je voudrais vous parler est celle d'Étienne, évêque de Liège entre 901 et 920. Or, c'est souvent celle qui est la plus mal considérée du point de vue littéraire, parce qu'elle a souvent été jugée trop maniériste et dans un latin pompeux et compliqué. Et alors, je voudrais un peu essayer de défendre cette vie en montrant que le rythme, l'attention au rythme dans cette vita est particulièrement intéressante. Alors, Étienne de Liège a manifesté pour Saint-Lambert un intérêt particulier. Il a dans un premier temps commandé une vie en vers, le Carmen de Sancto Lamberto, qu'on a attribué pendant un certain temps à son ami Ubald de Saint-Amand, mais que l'on préfère aujourd'hui considérer comme l'œuvre d'un poète anonyme. Il s'agit d'un poème composé de 545 hexamètres dactyliques, qui s'inspire de la Vita Vetustissima, mais on écarte justement dans le récit de l'assassinat de Lambert. Alors que dans la Vita, l'évêque est victime donc d'une vendetta, le saint dans le Carmel s'indigne de la relation du roi avec sa concubine Alpaïde, c'est la première apparition de cette légende, et il s'attire la vengeance de son frère Dodon, qui est important à la cour. Or, il est évident que cet élément pouvait risquer d'irriter la dynastie régnante. Comme l'a montré d'ailleurs Étienne Evrard dans un article sur la métrique du Carmen, c'est précisément dans le passage où le Carmen introduit cet élément que le rythme varie de manière significative. Or, Étienne a-t-il été embarrassé par cet élément nouveau ? Toujours est-il qu'à la suite de ce poème qu'il a lui-même commandé, il écrit une version carolingienne en prose dans laquelle il gomme tous les éléments pernicieux qui pouvaient tendre à impliquer Pépin II dans l'assassinat de Lambert et qui pouvaient ternir les ancêtres du pouvoir carolingien. Mais au-delà de sa portée politique, cette vie a une singularité littéraire qui la distingue de toutes les autres. Elle concentre manifestement tous ses efforts d'écriture sur l'attention au rythme et à la prose rimée. Dans sa préface, c'est le premier passage que vous avez dans l'exemplier, préface dédiée à l'archevêque de Cologne, Hermann, Étienne a expliqué les raisons de sa réécriture. Je vous lis une traduction de ce passage. « Puisque chaque jour l'on s'efforce d'examiner l'action des autres, et que si l'on y trouve quelque chose de répréhensible, une attaque injurieuse ne fait pas attendre sa souillure, il faut éradiquer la contagion, blâmable à coup sûr, afin que cessent bientôt les éclats de rire et les moqueries des blasphémateurs. En effet, nous avons été, et pas qu'un peu, la cible de l'outrage abject des rires de la part de gens qui célébraient avec nous la fête de Saint-Lambert et qui se croyaient dotés de la science des lettres. La vie et la passion du dipère nous étaient lues dans une version aucunement châtiée de jadis et aucune modulatio, là je ne sais pas trop comment traduire modulatio, battement, dit Francesco Stella, mais il est sujet de cantatur, cantabato, donc... aucune régularité propre aux offices n'était chantée. Aucun, pourrait-on aller jusqu'à mélodie? Je ne sais pas, je pose la question, on pourra en discuter. Aucune modulatio propre aux offices n'était chantée. Dès lors, activement sollicité par la prière répétée de nos frères, je me suis retrouvé à maintes reprises, obligé d'entreprendre de renouveler tout cela en y consacrant ma propre intelligence et d'éloigner de nous tous la marque de ce déshonneur. De fait, sans être enflé par les excès de l'orgueil et sans mépris pour aucun des pères, ne voulant bien au contraire que servir l'intérêt déjà évoqué, je me suis empressé de parer cette vie d'un style, d'une tenue praepolentior, tenue supérieure, plus brillante, stylo praepolentioris in genie. Bon, on comprend, quand on lisait donc la Vita Vetustissima, les gens rigolaient à cause du latin mérovingien de cette vie. Et Étienne s'est dit, il faut faire cesser ces rires à l'église, et écrire une vie digne de Saint-Lambert et qui arrête de provoquer l'hilarité des auditeurs. Sa réécriture gomme toutes les fautes entre guillemets, maladresse entre guillemets du latin mérovingien, mais elle imprime surtout à la vita le maniérisme et le rythme de la prose rimée en vogue à son époque. Les caractéristiques de cette prose rimée ont été bien étudiés par Ingvar Jonsson dans son livre sur historien, étude sur la genèse des offices versifiés. Et elle a montré que les rimes sont pour la plupart monosyllabiques, mais beaucoup aussi sont bisyllabiques. On rencontre quelques cas de rimes trisyllabiques et quadrisyllabiques. Dans la plupart des cas, les phrases sont composées de membres de longueur à peu près égale. Mais il n'y a pas une isosyllabie parfaite, loin de là. Donc, des membres de longueur à peu près égale, terminés par une rime finale. Johnson a dénombré 283 rimes binaires à ABB, 70 de rimes ternaires, 30 de 4 membres, 6 de 5 membres, 3 de 6 membres, et même un cas de 7 membres et un autre de 8. Les rimes peuvent être embrassées, AB, BA, ou croisées, AB, AB. Souvent, les phrases contiennent un groupe de 3 membres suivi d'un autre groupe de 2, ou un groupe de 2 membres suivi d'un autre de 3, selon une technique de rime multiple que Karl Polheim appelait les rimes de tirade, Tiradenreim. Les membres de phrases donc, ne présentent qu'exceptionnellement un même nombre de syllabes, ça arrive quand même dans quelques cas, et donc la pression rythmique générale dépend de la régularité du style et de la rime. Régularité qui imite plutôt la rythmique du psautier ou de la langue liturgique. Le texte pouvait donc ainsi, plus facilement, selon sa destination, être lu ou chanté à l'église. Il me semble cependant que cette prose rimée n'est pas que purement décorative, que ce n'est pas qu'un effet donc, de mode. Dans bien des cas, la prose rimée vise à rehausser la sainteté de Saint-Lambert, et on le voit bien car les passages les plus travaillés sont les discours ou les descriptions des vertus de Saint-Lambert, ou au contraire des défauts de ses adversaires, comme Pharamond et ses partisans. Alors, un bon exemple est la description des vertus de Lambert donnée au début du chapitre 3. C'est le deuxième passage que vous avez dans l'exemplier. Je vous lis, si vous voulez, une traduction, et puis nous pourrons lire le texte latin. De fait, élevé à nouveau au siège épiscopal, donc il s'agit du moment où, après sa période ascétique au monastère de Stavelot, il retrouve son évêché. Élevé à nouveau au siège épiscopal, il se mit à étinceler de toute la sainteté qui, à l'évidence, convient à un évêque de Dieu. Dans son cœur, l'intégrité et la plénitude de la loi, sur son visage, la vérité et la beauté de la douceur, dans sa pensée, vigueur et sagesse, dans ses actes, équité et générosité, dans sa manière de vivre, innocence et pureté, dans son attitude, gloire et honnêteté. Il faisait assurément preuve de la foi la plus constante, d'une espérance à toute épreuve, de la charité la plus intègre, d'une extraordinaire prudence, d'une tempérance remarquable, d'une force sans faille, d'un sens de la justice inouï. Il était exceptionnel par la pratique des bonnes œuvres, admirable par son instruction et ses vertus. La bonté du Père éternel l'avait paré aussi bien de mérites terrestres que de miraculeuses merveilles. Il ne méprisait pas la personne des puissants, mais était plutôt attentif à la pureté de leurs mœurs. Celui dont il connaissait la vie pieuse, il l'honorait davantage. Pour tous et en tout, il était ainsi fait qu'il les gagnait tous. Or, le travail sur le style et le rythme est particulièrement visible ici. Sublimatus namque iterum. Je vous ai présenté donc le texte, non pas tel qu'il se présente évidemment dans les manuscrits, mais tel qu'on peut le découper selon la prose rimée. Sublimatus namque iterum ad episcopale solium, tantis coepit sanctitatibus corus care, quantis dei pontificem constat decubisse. In cordelius sinceritas et legis plenitudum. In ore ipsius veritas et lenitatis pulcritur, in concilio ius vigor et sapientia, in actibus suis aequitas et abundantia, in conversatione ipsius innocentia et castitas, in habitu eius gloria et honestas. Erat nimirum, fide constantissimus, spe firmissimus, caritate ingerrimus, insignitus prudentia, praepitus temperantia, fortitudine roboratus, justitia locupletatus. Honorum operum exhibitione singularis, doctrina et virtutibus admirabilis, exorna verat illum pietas aeterni patris, sicut vita emeritis, ita et prodigiorum miraculis, personas potentium non respiciebat, sed potius ad morum elegantiam intendebat, quam religiosus vivere sciebat, illum eminentius honorabat, omnibus omnia factus erat, ut omnes lucrificaret. Donc, comme vous pouvez le voir, les vertus théologales et les vertus cardinales sont au centre de deux mouvements de longueur à peu près égale, 140 syllabes dans le premier, 133 dans le second. Le premier souligne le retour de Lambert sur le siège épiscopal et toutes les qualités qu'un évêque doit posséder. L'unité de cet ensemble est soulignée par les rimes, donc de six membres monophases, groupant chaque fois par un « et » deux qualités, « sim caritas et legis plenitudo, veritas et enitatis pulcritudo », etc. L'unité est soulignée aussi par des rimes à termes variés, corde corde, sinceritas veritas, legis limitatis, ipsius eius, innocentia gloria, mais aussi par l'anaphore au début de chaque membre du hymne. La monotonie que pourrait provoquer le procédé est brisée par le troisième membre, sans rime interne, et par le croisement du final, dans le quatrième et le cinquième, aequitas et abundantia, innocentia et castitas. C'est un procédé que Johnson appelle les rimes mobiles, c'est-à-dire des cas où la rime principale, finale, est replacée en fait à l'endroit plus effacé qu'occupe la rime interne, et qui s'obtient en général par chiasme, aequitas abundantia, innocentia castitas. Ce catalogue introduit les sept membres sur les vertus théologales et cardinales, où les trois vertus théologales sont unies par les rimes finales, imus, 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 les deux premières, isimus, isimus, et par les rimes internes, et où le passage aux quatre vertus cardinales se distingue par le changement de rime, itus, itus, tia, tia, et par le chiasme, adjectif, nom, après la structure, nom, adjectif. Ici encore, la monotonie est évitée par l'absence, après le cinquième membre, de rime interne, et par un nouveau chiasme qui scelle l'unité de l'ensemble par le retour à la structure du début, nom, adjectif. Après cet ensemble de sept membres assez courts, hein, de cinq à neuf syllabes, le texte reprend, comme dans le premier développement, avec des membres beaucoup plus longs et moins ornés par les rimes, même si on peut encore noter dans les membres 5 à 9 des rimes internes. La dernière phrase, quant à elle, marque la fin du mouvement par l'absence de rimes, mais le charisme universel de Saint-Lambert est quand même paré d'un polyptote bien visible, omnibus, omnia, omnes. Donc on a là affaire à un véritable travail d'orfèvre, et il me semble évident qu'une oreille attentive devait sans problème avoir l'attention focalisée sur les sept vertus catholiques de Lambert, insérées un peu comme un joyau à l'intérieur de la description. On voit bien donc à ce passage tous les effets qu'Étienne a su tirer de la prose rimée pour rehausser la sainteté de son héros et en montrer les vertus. Or, la prose rimée n'est pas le seul ornement rythmique qu'Étienne a voulu donner à sa vita. Il y a aussi inséré des vers. Or, c'est un phénomène assez nouveau en hagiographie. Il y a bien quelques vers dans la Vita Sancti Columbani de Jonas au 7e siècle. Il y en a aussi dans le prologue de la vie de Saint-Gall de Valafric Strabon au 9e. Mais le mélange régulier de vers et de prose, donc le prosimètre en hagiographie, semble être une mode lancée au Xe siècle par Étienne et Hugues de Saint-Amand, une mode qui ensuite fera refaire. La Vita comprend en effet, insérée à peu près dans tout le long du texte, des hexamètres dactyliques, empruntés pour la plupart à des sources antiques, à Lucrèce et Virgile, et à des sources médiévales, spécialement à Aldhelm, ou De Virginitate d'Aldhelm, et à un ensemble très proche de trois poèmes hagiographiques carolingiens, le Carmen de Sancto Quirino, le Carmen de Sancto Cassiano et le Carmen de Sancta Benedicta. Riva Johnson considère que ces vers sont de la pure ornementation. Il me semble pourtant que cet ornement n'a pas non plus qu'une fonction purement décorative, et je voudrais essayer de vous le montrer à partir des deux parties métriques les plus longues, les 15 vers qui figurent au début dans le prologue. En fait, entre le passage, à l'intérieur du passage que j'ai cité tout à l'heure, le premier, où j'ai marqué une lacune par les tirets, c'est là que se situent ces 10 vers. Et puis, ces 15 vers, et puis les 10 vers qui figurent à la fin dans le dernier chapitre. Alors, commençons par les 15 premiers vers qui figurent dans le prologue. Il s'agit d'une partie hexamétrique, donc de 15 vers, repris pour la plupart aux 44 vers du prologue du De Virginitate d'Aldhelm. Je vous ai donné les références, mais pas le texte d'Aldhelm, mais bon, vous pouvez me faire confiance si je vous dis que la plupart de ces vers sont complètement réécrits par Étienne, et qu'on retrouve les idées d'Aldhelm, mais très peu en fait les mots du modèle. Alors voici ce que dit donc dans ce poème qui figure donc dans la préface. Je n'invoque pas les nymphes, les dryades, ni n'appelle les naïades à me livrer des poèmes et à m'inspirer vers et césures. Je ne demande pas à Mercure, fier de sa langue, de son style, de m'aider à déjouer plus vite les paroles ailées. Mais c'est le vrai Seigneur que je supplie, le roi de toutes choses, qui accorde tout sans jamais éprouver de paix. Par sa parole, il ordonne tout. Ses ordres n'attendent jamais, il réside au fait du ciel, gouverne la terre et la mer. Il pénètre dans tout comme s'il enveloppait tout de son poing. Ce Père et son Fils et avec eux le Saint-Esprit sont trois, mais non, c'est notre foi qu'une seule substance, car leur existence comprend trois personnes, mais leur substance comprend qu'elles ne font qu'un. Qu'il accorde à mes vers de briller, qu'il leur accorde les lumières du cœur, qu'il daigne apporter son aide à son misérable serviteur. Si vous jetez un coup d'œil sur les vers latins, donc je ne lirai pas pour gagner un peu de temps, puisqu'on a déjà pris beaucoup de retard, vous pourrez vous rendre compte que la répartition entre dactyle et spondée, je vous ai donné le schéma en bas du texte, est plus ou moins égale. Ce qui permet de sentir, me semble-t-il, pour une oreille habituée, le changement de rythme au vers 10 à 12, où domine nettement le spondé, 10 spondés contre 2 dactyles seulement, et rien que des spondés aux 4 premiers pieds pour le vers 11, où il s'agit du mystère de la Trinité. Ce changement est d'autant plus perceptible que les 9 vers qui précèdent en ont 6 qui se partagent à égalité spondés dactyles et que les vers 6 à 8 commencent par 2 dactyles et le vers 13, donc celui qui vient juste après ces 3 vers, est le seul à commencer par 3 dactyles. Ces 3 vers contiennent donc la profession de foi en la Trinité. C'est souligné donc de manière assez nette à l'entrée de la Vita, la foi de l'auteur et du même coup, évidemment, la sainteté du sujet qu'il va traiter et pour lequel il demande l'inspiration à l'Esprit-Saint. Ces vers insérés dans la préface rappellent les ouvertures de l'épopée biblique. Par exemple, l'ouverture de Juvencus, qui écrivait au vers 19 à 27 de son poème, je ne crois pas que je vous ai donné ces vers, Juvencus, donc, qui écrivait au vers 19 à 27 de sa préface ceci, « Car mon poème, ce sera le Christ et ses actes qui donnent la vie, don divin fait aux hommes sans l'ombre d'une tromperie, et je n'ai pas à craindre que l'incendie du monde emporte avec lui cet ouvrage, c'est lui en effet qui m'arrachera peut-être au feu, autant ou de la nuée qui vomit des flammes descendra comme un éclair, le juge, gloire du Père, qui trône dans les cieux, le Christ. Aussi en avant, que l'Esprit qui sanctifie m'assiste et m'inspire ce poème, et qui l'abreuve, tandis que je chante, ma pensée du flot pur du Doux Jourdain, afin que nos paroles soient dignes du Christ. » Donc, Juvencus, pour raconter la geste vivifiante du Christ, invoque l'Esprit-Saint. Étienne fait de même, il n'invoque pas les muses, il demande à l'Esprit-Saint d'apporter la lumière sur ses vers. Placé ainsi à l'entrée de la Vita, c'est souligner évidemment le lien de la geste de Lambert avec l'épopée biblique et donc avec l'histoire du salut. Si les vers ne le disent pas explicitement, ils hissent Lambert au rang des imitateurs les plus fidèles du Christ et sa vie au rang des sujets épiques dont le traitement réclame une inspiration divine. Alors, à mon sens, la majesté de l'hexamètre dactylique joue ici le même rôle que les raffinements de la prose rimée. Elle attire l'attention du lecteur sur la noblesse du héros dont l'auteur veut raconter la vie et la passion. À cette ouverture épique, correspondent à la fin, donc dans le dernier chapitre, les vers qu'Étienne reprend au Carmen de Sancto Lamberto qu'il avait donc lui-même commandé. Il reprend les vers 430 à 439, là, sans aucun changement. Contrairement à la réécriture d'Aldens, ici, il reprend les vers tels qu'ils apparaissent dans le poème d'origine. Ce chapitre évoque le miracle qui entoure le tombeau de Lambert, où les anges veillent sur lui depuis les premiers jours et montrent par la mélodie de leur chant « Sui carminis prosodia », dit le texte, quelle récompense donc l'âme de Lambert a reçue en cadeau dans le palais céleste. Suivent donc les dix vers que vous avez dans votre exemplaire, dont je vous dis une traduction. Quelle finesse il y avait dans la voix féconde de notre prélat. Les gens du pays, conduits par une grande admiration, se rendent là-bas très souvent et cherchent à savoir ce qui s'y passe, qui s'y trouve et ce qu'ils chantent ou ce qu'ils offrent de leur voix. Mais dès qu'ils désirent porter leur regard plus près, cette voix est emportée par une brise légère, pareille à celle que fait entendre d'ordinaire un vase d'airain quand on le touche. Et le son se lève peu à peu et monte jusqu'aux astres. Mais dès qu'il s'éloigne sagement, pour être plus loin, l'air résonne et laisse entendre de douces voix. Il me paraît évident que l'introduction d'une partie donc métrique à cet endroit a dû sembler à Étienne le meilleur moyen pour évoquer la carmilis prosodia des anges. Les vers sont ainsi un écho du chant miraculeux qui entoure le tombeau de Lambert. On notera que la majorité des spondées aux quatre premiers pieds est ici exceptionnelle. 70%, 28 spondées sur 40 pieds. D'après l'étude sur la métrique du Carmen de Sancto Lamberto d'Étienne Évrard, les spondées n'atteignent dans la plupart des parties qu'une moyenne de 59%. 70%, c'est évidemment un excès de spondées qui, pour une oreille attentive, doit être reconnaissable. Alors, évidemment, on sait le danger qu'il y a à tirer trop parti des virtualités expressives qu'on prête parfois au dactyle et au spondé en disant que le dactyle donne une impression de légèreté, de rapidité, le spondé de lenteur ou de gravité. Enfin, il semble évident quand même ici que on ne tombera pas dans un impressionnisme subjectif en avançant que ces divers cherchent à traduire par cet excès de spondée la majesté, la solennité des chants angéliques qui résonnent autour du tombeau de Lambert. Et on notera qu'il s'agit là d'attirer l'attention sur la preuve miraculeuse de l'admission de Lambert au milieu des saints, et on notera aussi que le premier vers contribue à rapprocher la subtilis vox du prélat de la douce voix au dernier vers d'ultibus vocibus des anges. Alors, on pourrait multiplier les exemples, qu'on les tire des effets de la prose rimée ou des hexamètres insérés dans la Gita, mais j'espère que ces quelques cas suffiront, sinon à prouver, du moins à suggérer qu'une partie donc, du travail d'Étienne de Liège sur le rythme vise à renforcer, à rehausser la sainteté, à faire croire à la sainteté d'un martyr qu'il a voulu doter d'une biographie digne de sa grandeur. Alors, dans une conférence inédite qu'elle avait eu l'amitié de m'envoyer, Monique Poulet a soutenu que le cas de Lambert était une exception, un cas idéal dans l'histoire des réécritures hagiographiques, parce qu'il est très rare en effet d'avoir des vies aussi nombreux sur un même saint et échelonnés dans le temps. Alors, on les a étudiés, surtout Jean-Louis Duperre, du point de vue politique et très peu du point de vue littéraire. Or, l'attention au détail des différentes réécritures aide, à mon sens, à mieux cerner les enjeux de chacune des vies, car leur ambition n'est pas que politique, elle est aussi littéraire et spirituel, le prologue d'Étienne le montre bien, et donc dans le contexte de la Renovatio Carolingienne, Étienne a procédé donc à un important travail de refonte linguistique et stylistique, mais qui n'est pas, comme on l'a trop souvent dit, qu'une traduction en un latin pompeux et affecté de la vie primitive. Étienne modifie l'image de l'empereur en multipliant les passages où le rythme est particulièrement soigné et qui le valorise le plus souvent dans sa triple identité d'évêque, de saint et de martyr. Or, la Vita d'Étienne a eu d'ailleurs un assez grand succès au-delà du diocèse de Liège. Alors, son côté politiquement correct, entre guillemets, puisqu'il a gommé tout ce qui pouvait mettre les Carolingiens en cause dans l'assassinat de Lambert, a pu jouer, mais je crois que la qualité littéraire de son prosimètre et son travail si soigné sur le rythme latin ont dû aussi séduire les auditeurs et les lecteurs, et j'en veux pour preuve l'influence considérable et peut-être un peu inattendue que la vie de Lambert, d'Étienne, a eu sur un écrivain aussi difficile et maniériste que Dudon de Saint-Quentin, qui s'en est inspiré tant au niveau du style qu'au niveau du contenu pour rédiger son histoire des premiers ducs normands en prose rimée, entrecoupée de pièces en vers. Je vous remercie.